LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Durant des siècles, le chirurgien est une sorte de manœuvre au service du médecin. Paré donne une nouvelle définition à la chirurgie. Certes, le mot vient du grec et c'est œuvrer de la main. Mais c'est ce qui donne, au fond, toute sa noblesse à cet art. Comme un homme de ses mains lève un autre tombé, le médecin et le chirurgien, docte et savant en son art, guérit et chasse les maladies du corps humain, le relevant en sa première santé comme divinement.
Alors, on est sur la place principale de la ville de Laval, devant l'hôtel de ville. Donc, et on voit qu'au milieu de cet espace civique, il y a une statue, une seule, qui trône fièrement. C'est celle d'Ambroise Paré. C'est le grand personnage, c'est le grand homme de la ville, et c'est celui qu'on a voulu mettre en scène ici, très tôt. Cette statue arrive en 1840. On doit remplacer les saints catholiques par des saints républicains. Et ce sont les médecins, les chirurgiens, qui vont devenir ces saints importants. Alors quand on regarde Ambroise Paré, on le voit ici, c'est l'image canonique qu'on a voulu en retenir, qu'on a retenu la mémoire, parce que finalement on va voir qu'on connaît peu de choses de l'homme lui-même. Donc un homme qui mêle à la fois l'intellectuel, il est pensif, on dirait le penseur de Rodin, mais également d'action, il est debout. Et alors, comme si tout cela ne suffisait pas, devant on y a mis des maximes, en nombre. Alors bien sûr, je le pensais, Dieu le guérit. Et puis,
avec un, ouais.
Voilà, avec un A et un Y, hein, je le pensais. Et puis, un remède expérimenté vaut mieux que 10 inventés. Enfin, voilà comment il s'inscrit dans la cité. Alors la statue a bougé, elle va encore bouger dans les travaux, mais il reste quand même le grand homme lavallois et jusqu'aux années 50, le seul homme connu de la ville.
Tout le monde connaît peut-être, parce qu'on l'a vu autrefois dans les livres scolaires, le visage de Paré, un petit peu dégarni, et puis cette barbe, un bon visage, je dirais, hein, de quelqu'un qui a beaucoup d'humanité et qui ne se présente jamais, ça c'est important aussi, dans les habits de sa fonction. Dans la dernière édition de ses œuvres parues de son vivant, en 1585, dans le livre où apparaissent les prothèses, avec des illustrations, il ajoute une nouvelle illustration pour montrer la prothèse de la main, mais habillée avec le gantelet métallique. Et cette main, il la présente tenant une plume. Et je crois que ça représente très bien ce qu'est pour lui la chirurgie et le rôle du chirurgien.
L'œuvre chirurgicale d'Ambroise Paré. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Yvon Croisy.
Là, on est ici au pied de la maison Ambroise Paré, dans une rue qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus étroite, qui est la rue du Bourg-Hersant, et avec un type de maison qui n'est alors pour le coup plus du tout les grosses maisons opulentes urbaines. On a un habitat campagnard.
Xavier Villebrun.
Et ici se trouvait une série de maisons, dont une reste, on l'appelle le château Ambroise Paré. Alors, le nom a été donné postérieurement, parce qu'on imaginait bien qu'un grand chirurgien devait avoir une grande maison. Donc cette maison, on lui a immédiatement mis une plaque. L'illustre chirurgien, bienfaiteur et ami des soldats blessés, est né au Bourg-Hersant. Alors vous remarquez tout de suite qu'on ne vous dit pas est né dans la maison. Dès le 19e siècle, tout le monde trouve cette maison bien trop belle pour quelqu'un qui est quand même censé avoir commencé pauvrement. Et on se souvient alors que... dès le XVIIIe siècle, on vient ici en pèlerinage voir la maison Ambroise Paré, mais ce n'est pas cette maison. C'est une maison qui était juste à côté, là, sur le parking. Vous voyez donc, mais on reste encore. Alors, est-ce que c'est la vraie maison d'Ambroise Paré? En tout cas, on en a deux pour le prix d'une.
On sait peu de choses des premières années d'Ambroise Paré, Evelyne Berriot-Salvador.
En effet, toute une légende s'est construite autour de Paré, et ceci, je disais, au moment du 19e siècle. Parce que un médecin qui s'appelle le docteur Béguin publie un article dans lequel il prétend avoir retrouvé des documents du 18e siècle. Et alors se construit la légende d'un Paré qui aurait pris le latin, a pris le latin chez un curé, qui aurait été ensuite apprenti. En réalité, on n'en sait rien. Parce que ces documents, s'ils ont existé, sont perdus. Et je dirais, c'est comme si la vie de Paré commençait à 15 ans. Parce que, en 1525, il se trouve à Angers, et c'est lui qui nous le raconte. Et il observe une mendiante qui contrefait une infirmité. Je dirais que c'est pas, à mon avis, par hasard que Paré raconte cela. D'abord, ce qu'on voit, c'est quand même un milieu. Son frère, et ça on le sait, était barbier chirurgien. Il avait un autre frère qui était coffretier, ça on le sait aussi parce qu'il nous le dit. Et il se met en scène comment ? La première fois qu'il apparaît à 15 ans, en train d'observer. Et je crois que c'est le maître mot chez Paré. Ce qu'on appelle aujourd'hui la clinique, finalement.
Il parle un peu de sa jeunesse, c'est de manière très indirecte, hein, dans un traité intitulé « Des monstres et prodiges ».
Ariane Bell.
Et dans ce traité, de manière assez étonnante, il va évoquer des souvenirs quand il aborde la question des faux mendiants. Parce qu'il parle des monstres, et puis, assez vite, il veut parler des artifices du diable. Et avant de parler des démons, il parle des hommes malhonnêtes, des hommes et des femmes, qui simulent tous les simulateurs, les menteurs, les charlatans, enfin voilà. Et parlant de certains cas de simulateurs, il fait référence à des souvenirs en Mayenne. Il dit qu'avec son frère, il a vu, je crois qu'en 1525, un homme qui faisait la mendicité avec un bras blessé, puis que soudain on a vu que son bras tombait par terre et il le recollait rapidement. Et là, tout le monde a compris que c'était un imposteur et cet homme a été très sévèrement châtié par la justice, ce dont se réjouit Paré, hein, qui est toujours très content quand la justice donne le fouet aux imposteurs.
J'ai souvenance, étant à Angers en 1525, qu'un méchant coquin avait coupé le bras d'un pendu encore puant et infect, lequel avait attaché à son pourpoint, étant appuyé d'une fourchette contre son côté, et cachait son bras naturel derrière son dos, couvert de son manteau, afin qu'on estimât que le bras du pendu était le sien propre, et criait à la porte du temple qu'on lui donnât l'aumône en l'honneur de saint Antoine. Le coquin, ayant par long espace de temps remué ce bras, enfin se détacha et tomba en terre, où tout subit le relevant, fut aperçu de quelques-uns avoir deux bons bras sans celui du pendu. Alors fut mené prisonnier, puis condamné à avoir le fouet par l'ordonnance du magistrat, ayant le bras pourri pendu à son col devant son estomac, et banni à jamais hors du pays.
À propos des portraits de Paré, c'est le portrait qui figure dans l'Anatomie universelle du corps humain, 1561. Et ce qui me frappe dans ce portrait qui peut paraître assez neutre, c'est la lumière hein, sur son visage et sur ses yeux et l'insistance sur le regard. C'est une figure du chirurgien attentif, dont l'œil est vraiment l'organe principal. Il compare aussi le travail du chirurgien à celui du laboureur, à celui qui travaille la terre, qui utilise les outils. Alors, il dit évidemment, le laboureur, il peut parler de la terre, des saisons, il peut jacasser. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il fait, vraiment. Le chirurgien, c'est la même chose. Hein. Ça n'est pas celui qui va parler comme un homme seulement savant, enfin, ou savoir en tout cas livresque, c'est celui qui va toucher les corps. Et avec les outils, les instruments de chirurgie qui ont été une grande affaire dans la publication de ses œuvres. Il a mis beaucoup d'énergie à faire reproduire les outils dont il s'est servi, qui sont absolument nécessaires aux opérations de la chirurgie. Il insiste sur le fait qu'il a mis beaucoup d'argent hein, sur ses propres deniers pour faire donner des reproductions de qualité.
Alors on va voir, on va descendre ici, on arrive sur la place sur la deuxième place qui est au centre-ville de Laval. Et là, on a une vue qu'on n'avait pas à l'époque. Il y avait un mur sur la grande galerie Renaissance des seigneurs de Laval. Parce que voilà, c'est Ambroise Paré, il est le fils d'une petite ville de l'Ouest, pour nous aujourd'hui, mais qui à l'époque est une cour brillante, qui se construit une grande galerie du même modèle que ce que l'on peut trouver à Blois, par exemple. Alors on descend tranquillement ici pour vers le château. Ce parcours, il a dû le réaliser, puisque c'est dans ce sérail que se tenait toute la cour. Et le fait qu'à Paris, il ait pu très rapidement être intégré chez un grand, le seigneur de Montjean, ça ne peut pas s'expliquer de manière relativement simple si on ne sait pas que Montjean, le seigneur de Montjean, était le curateur du fils du seigneur qu'il avait connu, du seigneur de Laval. Donc on voit qu'il y a vraiment des liens très forts, on va dire, entre galop. Quand il arrive à Paris, bah, c'est des gens de l'Ouest. On dirait que c'est les gens de Montparnasse aujourd'hui. Ben voilà, Ambroise Paré, c'est Montparnasse avant l'heure. Il rencontre que des gens de son sérail. Et quand il revient dans l'Ouest, c'est pour choisir l'autre grand seigneur, Rohan, qui est le rival de Laval, mais un copain en même temps, pour aller explorer ce pays gallo. Alors, on voit bien les limites d'ailleurs intellectuelles de cet enfant Ambroise Paré. C'est quand il passe en pays breton, la première phrase qu'il nous donne, c'est « Ici, les gens coassent comme des grenouilles. Mais les femmes dansent bien, dit-il. » Voilà sa vision un peu du petit monde, le petit monde de l'Ouest d'Ambroise Paré. On rentre dans la cour. On arrive devant un château dont les façades sont toutes en tuffeau, avec des ornements italiens abondants. On peut le voir, on voit des centaures, on voit des sirènes. On voit tout un décor de chimère, un mélange de fantasmagorie médiévale et puis d'ambiance renaissance. Donc il faut imaginer une espèce de grande bonbonnière, mais qui n'était pas qu'une bonbonnière, qui était une ruche vivante. L'étage était le lieu de rassemblement du seigneur et de ses vassaux. Et puis la partie basse, c'était la partie des marmites, notamment des cuisines. Et on sait notamment qu'il y a une marmite géante au milieu. Alors, l'idée qu'il puisse être marmiton n'est pas quelque chose d'inacceptable. À l'époque, on passait vite dans tous les offices, et notamment par les cuisines, où il a pu très bien non seulement séjourner, mais œuvrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste au-dessus, il y a déjà un chirurgien barbier, déjà un médecin. Donc le fait qu'il ait pu commencer un semblant d'apprentissage est tout à fait vraisemblable. On entre. De deux côtés, une cheminée imposante. Tout montre la puissance à la fois du seigneur, mais c'était aussi très utilitaire. Alors, c'est vrai que ces hypothèses sur la jeunesse d'Ambroise Paré restent des hypothèses, puisqu'on nous parle d'écrits qui auraient disparu. Énormément de choses sont dites. Même sa date de naissance est restée longtemps incertain. Sur la statue, on indique 1517. Aujourd'hui, on tend plutôt vers 1510. Voilà, il y a beaucoup d'ombre. Mais c'est... les relations d'Ambroise Paré sont les relations à la fois peuvent paraître peu élevées, parce que finalement il ne prétend pas tout de suite à des postes très élevés, donc elles marquent ses origines, il n'est pas noble, mais il a su se tisser un réseau relationnel. Et effectivement, s'il a pu s'approcher du barbier, notamment, chirurgien barbier, ne l'oublions pas, ce sont des hommes qui font un peu tout. Ambroise Paré commencera notamment à Angers à faire les perruques, à faire tout ce qui est autour du poil et de la pilosité. Mais vous présentez votre gorge également à un valet, vous êtes un seigneur important, vous avez un homme qui est proche de votre gorge et proche de votre oreille à la fois. Dans la symbolique médiévale et dans la symbolique de ce temps, c'est une relation de confiance extrêmement importante.
Après, bien sûr, à partir du moment où, en 1533, il entre à l'Hôtel Dieu, là, on sait tout ce qu'il nous raconte. Et il nous en dit beaucoup.
Evelyne Berriot-Salvador.
Comme je l'ai dit, Paré arrive à Paris. On ne sait pas dans quelles circonstances. Il est pendant 3 années apprenti à l'Hôtel Dieu, barbier chirurgien à l'Hôtel Dieu. Et puis, commence sa carrière de chirurgien militaire. L'Hôtel Dieu compte à peu près 500 lits, mais beaucoup plus de malades en réalité, parce que dans les périodes d'épidémie, de fortes maladies, eh bien, on pouvait faire allonger dans ces lits deux, trois malades. C'est une centaine de personnes à peu près qui s'occupent de ces malades. Si on compte la quarantaine de religieuses professes, les novices, les domestiques. Et puis quoi? Un ou deux médecins, un chirurgien de robe longue, maître chirurgien, beaucoup d'apprentis. Et Paré se trouve là, tout d'un coup, il est quoi? Il est apprenti. Certainement sous l'autorité, donc, du maître barbier chirurgien de l'Hôtel Dieu. Pour œuvrer, alors, faire quoi? Eh bien, des saignées, des purges, soigner des maladies cutanées, des anthrax, des abcès. C'est ce que faisaient d'ailleurs les barbiers. Hein. Ils ne faisaient pas seulement la barbe, ils faisaient les saignées, les purges, les petits bobos, on dirait aujourd'hui. Hein. Et Paré met tout de suite, si on peut dire, la main à la pâte. Mais surtout, il est frappé par cette misère, cette douleur, surtout qu'il se trouve à l'Hôtel Dieu dans les années terribles. Les années 33-34, la peste à nouveau frappe la ville. Donc les malades affluent en masse à l'Hôtel Dieu. Et Paré voit la mort hein, chaque jour. Et il découvre, c'est le moment, il nous le dit, où il découvre aussi ce qui va être pour lui l'essentiel, eh bien l'anatomie. Parce que là, il peut faire des autopsies et connaître le corps vivant, mais aussi connaître le corps mort pour savoir comment ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est le moment de raconter cette petite anecdote. Un des moines de l'Hôtel Dieu meurt brutalement. Les religieuses, observant la manière dont il est mort, brutalement, dans des syncopes, pensent que le moine a été empoisonné. Donc elles font appel au gouverneur de l'Hôtel Dieu afin qu'il ordonne une autopsie. Et pendant qu'on opère la dissection, on observe déjà l'estomac, des signes qui peuvent laisser penser en effet que le moine a été empoisonné à l'arsenic. Paré ne dit rien, il regarde. Mais pas seulement l'estomac. Il remarque que sur le corps, il y a des petites taches noires. Et il le fait observer au médecin, ce qui est déjà une belle audace, hein, parce que lui est apprenti. Et il pense que non, il n'est pas mort empoisonné. Et il a un soupçon. Et il prend une aiguille et il fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une ponction.
Ainsi que je recousois le corps, dit celui, j'aperçus plusieurs petites taches noires semées sur son corps. Et lors, je rappelai la compagnie pour contempler les dites taches, leur disant et affirmant que c'est soit du pourpre. Mais le médecin et chirurgien me dirent que c'est soit morsure de pulse ou de punaise, ce que ne voulus aucunement accorder, parce qu'il y en avoit en grande quantité. Et pour vérifier mon dire, je prins une espingle, la poussant assez profondément dans le cuir en plusieurs endroits, et le levai en haut, puis le coupai avec ciseaux. Et fut trouvée la chair de dessous bien fort noire. Pareillement, nous considérâmes la couleur livide du nez, des oreilles et des ongles, mesme de tout le corps, plus noir qu'elle n'a coutume d'estre aux morts d'autres maladies, et principalement le visage changé, tellement qu'il est soit quasi impossible de le pouvoir reconnoître. A donc changèrent d'opinion, et fême rapport que le moine est soit mort d'un charbon pestiféré, et non d'autre poison.
Ce moine n'est pas mort empoisonné par l'arsenic, mais il est mort de la peste. Ce que nous dit Paré, là, hein, c'est que dès ses premières années, il avait en lui ce qui va lui permettre de devenir un grand chirurgien. C'est-à-dire ce sens aigu de l'observation, ce bon diagnostic, il insiste souvent hein, sur cette capacité, et je dirais une certaine audace, qui fait que ce qui prime pour lui, c'est pas la hiérarchie, c'est la vérité. Quand il est convaincu de quelque chose, il sait s'opposer, quelle que soit la personne qu'il a en face de lui. Pour lui, il y a deux choses qui sont déterminantes. Sa formation à l'Hôtel Dieu de Paris et ensuite son expérience de chirurgien militaire.
Alors, il a raconté cette histoire dans... Enfin, cette expérience de ses débuts dans la chirurgie militaire dans plusieurs de ses traités.
Ariane Bell.
Moi, je l'aborderai peut-être par son dernier texte, qui s'intitule « L'apologie et les voyages ». Et c'est un texte qu'il rédige vraisemblablement en 1584. Il est déjà très âgé, il va mourir six ans plus tard. Et il revient sur une série de campagnes militaires. Le terme « voyage », dans la langue du XVIe siècle, ça désigne les campagnes militaires. C'est pas des voyages touristiques, pas du tout. Et ce qu'il va découvrir dans cette première... expérience, c'est vraiment une épreuve. Ben voilà, les blessés sur lesquels les chevaux marchent, les corps écrasés par les chevaux, ce sont des corps calcinés, des hommes qui ont été brûlés par un tir d'artillerie et dont qui ne sont pas encore morts, mais dont les corps sont brûlés au dernier degré et dont il ne sait pas très bien comment il faut agir avec eux. Et il racontera qu'un vieux soldat a choisi d'égorger ses hommes, de les s'achever, pour qu'ils ne souffrent plus.
Nous entrâmes affoulant la ville et passions par-dessus les morts, et quelques-uns ne l'étant encore, les entendions crier sous les pieds de nos chevaux, ce qui me faisait grande passion à mon cœur. Et véritablement, je me repentis d'être parti de Paris pour voir si piteux spectacle. J'entrai en une étable pour essayer de loger mon cheval et celui de mon homme. Là où je trouvais 4 soldats morts et 3 qui étaient appuyés contre la muraille, leurs faces entièrement défigurées et ne voyaient, n'entendaient ni ne parlaient. Et leurs habillements flamboyaient encore de la poudre à canon qui les avait brûlés. Les regardant en pitié, il survient un vieil soldat qui me demanda s'il y avait moyen de les pouvoir guérir. Je dis que non. Subit, il s'approcha d'eux et leur coupa la gorge, doucement et sans colère. Voyant cette grande cruauté, je lui dis qu'il était un mauvais homme. Il me fit réponse qu'il priait Dieu que lorsqu'il serait accoutré de telle façon, qu'il se trouvât quelqu'un qui lui en fît autant, afin de ne languir misérablement.
S'il m'arrive semblable chose, j'aimerais que quelqu'un soit là pour faire ce dernier geste pour moi. Paré le raconte 40 ans après, je crois pour nous montrer ce qu'a été le choc pour lui de l'arrivée sur le champ de bataille, mais aussi pour nous montrer le rôle difficile du chirurgien pris entre, je dirais, la compassion et son devoir d'agir. Il y a un proverbe qu'il aime beaucoup, qui est « Le chirurgien à la face piteuse fait la plaie de son patient venimeuse ». Qu'est-ce que ça veut dire, le chirurgien à la face piteuse, avec trop de pitié, trop de compassion? La difficulté pour le chirurgien, et c'est quelque chose qui hante Paris, ça, c'est d'agir lorsqu'il le faut, quelle que soit la douleur provoquée, mais aussi faire en sorte tout de même que ces interventions soient les moins douloureuses possibles. Car, vous savez, il y a quelque chose qui hante toute l'histoire de la chirurgie. C'est ce qu'on appelle le complexe d'Archagatos. Archagatos était un médecin grec à Rome, qui d'abord a eu beaucoup de succès, et puis, voyant donc qu'il amputait, opérait de manière très douloureuse pour les patients, eh bien Archagatos fut mis à mort. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui hante cette partie de la médecine qui œuvre de la main. Dans ses débuts, et même longtemps, jusqu'en 58, il est vraiment sur le terrain. Il est là où se passent les batailles. C'est encore une époque où les armes sont multiples. Il y a encore les lances, les épées, et puis donc les armes portatives, arquebuses, pistolets. Donc il soigne les plaies, il s'occupe de l'extraction des balles, du soin des plaies causées par les armes à feu, il procède à des amputations. Paré est toujours là, il le dit lui-même, il est toujours sur le terrain, on vient le chercher pour soigner. Donc oui, il est en pleine action. Mais il le dit, il a une jolie expression, il dit de lui-même « J'étais encore bien doux de sel ». Hein ? Bon, il ne sait pas grand-chose. Il a lu un ouvrage d'un médecin chirurgien italien qui s'appelle Jean de Vigo et qui consacre tout un chapitre aux plaies causées par ce qu'on appelle aussi les bâtons à feu. Hein ? Pour Vigo, la plaie est envenimée. Donc, il convient de verser de l'huile bouillante sur la plaie, de l'huile de ce qu'on appelle de l'huile de sambuc à l'époque, c'est du sureau, et Paré fait comme tout le monde au début.
Or, j'étais en ce temps-là bien doux de sel. Je n'avais encore vu traiter les plaies faites par arquebuse. Il est vrai que j'avais lu en Jean de Vigo que les plaies faites par bâton à feu participent de vénénosité à cause de la poudre. Et pour leur curation, commande les cautériser avec huile de sambuc toute bouillante. Mon huile me manqua et fut contraint d'appliquer en son lieu un digestif fait de jaune d'œuf, huile rosa et térébenthine. La nuit, je ne pus bien dormir à mon aise, craignant par faute d'avoir cautérisé de trouver les blessés où j'avais failli à mettre de ladite huile mort empoisonnée, qui me fit lever de grand matin pour les visiter. Où, outre mon espérance, trouver ceux auxquels j'avais mis le médicament digestif sentir peu de douleur et leurs plaies sans inflammation ni tumeur, ayant assez bien reposé la nuit. Les autres, où l'on avait appliqué la dite huile, les trouvaient fébricitants, avec grande douleur et tumeur aux environs de leurs plaies. Ah donc, je me délibérai de ne jamais plus brûler ainsi cruellement les pauvres blessés des arquebusades.
Et là, il constate que ceux qui ont été traités comme il convenait, croyait-on, avec l'huile bouillante, sont fébricitants, ils souffrent énormément. Et ceux qu'il a soignés avec son baume, se portent infiniment mieux. Et il résout alors, il nous le dit, de ne plus jamais brûler aussi cruellement les pauvres malades.
Les armes à feu ont complètement bouleversé la manière de faire la guerre, mais aussi la manière d'exercer la chirurgie. Et c'est lui, d'ailleurs, qui fait le parallèle dans le traité des arquebuses, dans la deuxième édition de ce traité, la première est de 1545, la seconde de 1551. Je peux vous lire un petit passage où il parle d'instruments, parlant des armes à feu, tant terribles et dommageables comme son canon, aquebute et autres bâtons à feu, puis naguère, c'est-à-dire autrefois inventés, lesquels, comme tonnerres ou foudres artificielles mis en la puissance des hommes, abattent ce qu'ils rencontrent, faisant résistance, tuent, brisent et blessent les membres des hommes en très grande distance. Donc cette image des armes à feu comme tonnerres, foudres, engins diaboliques, c'est vraiment un leitmotiv dans le discours de Paré et de tous les commentateurs finalement de l'époque. C'est une invention du diable, les armes à feu. Et il précise un peu après que cette invention a non seulement troublé les gens de guerre, dit-il, contraints de changer leur façon de guerroyer, mais aussi les chirurgiens, voulant traiter et guérir les blessures faites par les dits bâtons à feu. Alors moi je note, c'est troublant, c'est qu'il utilise ce terme d'instrument pour parler des armes, mais c'est aussi le mot instrument qu'il utilise pour parler des outils chirurgicaux. C'est les arts du feu et du fer qui peuvent créer le pire et qui peuvent aussi être utilisés pour soigner. Voilà.
Donc après cette première campagne, il revient à Paris et là il va être reçu par un grand médecin du temps qui est un grand anatomiste, qui s'appelle Jacques Dubois, qui se fait appeler en latin Jacques Sylvius. Et Sylvius, qui a l'esprit curieux, va interroger Paré sur son expérience. Paré lui explique tout cela. Et Sylvius lui dit, mais il faut l'écrire, il faut rendre compte de cela. Et c'est le début, je dirais, de l'histoire de Paré écrivain. deuxième moment important pour, si on peut dire, l'histoire de la chirurgie, parce que là, il va se produire certainement quelque chose, hein, première tentative de ligature des artères après amputation.
Il ne te faut être trop scrupuleux de ne pincer seulement que les 10 vaisseaux, pour ce qu'il n'y a danger de prendre avec eux quelques portions de la chair des muscles ou autre partie, car de ce ne peut advenir aucun accident. Mais avec ce, l'union des vaisseaux se fera mieux et plus sûrement que s'il n'y avait seulement que les corps des 10 vaisseaux, compris en la ligature. Ainsi tirés, on les doit bien lier avec bon fil qui soit en double. J'avais vu ainsi faire à ceux que l'on appelait pour telle pratique, dans lesquels un continent après le membre extirpé usait de plusieurs cautères pour empêcher le flux de sang. Chose très horrible et cruelle seulement à raconter, car cela causait une extrême douleur au patient. Attendu que telles plaies récemment faites sont fort sensibles. Si on y applique chose caustique dessus et contre les parties nerveuses, surviennent de très grands et pernicieux accidents, et le plus souvent la mort.
Paré, je dirais, à horreur de la souffrance.
Evelyne Berrio-Salvador.
Il sait qu'elle est inévitable. Et de la même manière qu'il avait dit « je décidais de ne plus jamais brûler aussi cruellement les malades », eh bien là, il va décider aussi de ne plus brûler aussi cruellement. Parce que qu'est-ce qu'on employait comme hémostatique pour arrêter l'hémorragie ? Eh bien le fer ardent, le cautère, qui provoquait une rétractation des vaisseaux, mais qui provoquait aussi une douleur si atroce qu'elle avait souvent des effets secondaires, hein, inflammation, fièvre. Et Paré mettre au point et finalement reprendre une technique qui existait avant lui chez les anciens.
Je confesse, librement et avec grand regret, que j'ai autrefois, hein, je paraphrase ici hein, globalement, j'ai pratiqué autrement que je ne l'écris à cette heure. J'ai pas toujours bien fait, après l'amputation des bras et jambes. Mais quoi ? Est-ce que je pouvais faire autrement ? Et ensuite, il conseille aux jeunes chirurgiens d'abandonner ce qu'il appelle cruauté et inhumanité, hein, mais de suivre sa pratique à lui, en se disant qu'il a été, pour ainsi dire, inspiré par Dieu. Il raconte qu'il a, quelques jours après, un serviteur d'un certain Pigrou Garbier a eu la jambe droite coupée, un petit peu au-dessus, en dessous du genou, et qu'ils ont pu ensemble tester cette technique de la ligature des veines et des artères, et qu'il a été conforté, voilà, et qu'il a ensuite convaincu finalement et fait des émules à partir de là. Évidemment, Gourmelin le traite de bourreau, de boucher, carnifex, hein, mais c'est un lieu commun sur les chirurgiens qui sont apparentés à toute cette ce groupe de métiers comme les bouchers, les bourreaux, voilà, qui ont un contact avec le sang qui le verse et qui sont jugés être des métiers répugnants, même s'ils sont très très utiles.
Alors donc, il est chirurgien du roi, mais il n'a pas le titre de chirurgien de Saint-Côme, ce qui est tout de même un petit peu ennuyeux. Mais comment faire ? Parce que Paré, comme il nous l'a dit en 45, n'a pas eu la chance d'étudier le latin et le grec. Or, tous les examens se passent en latin. Paré va tenter quand même la chose, et bon, il faut bien dire que ça se passe pas très bien, il fait d'affreux barbarismes, et d'aucuns se plairont d'ailleurs à le relever et à se moquer de ce chirurgien, mais à ce moment-là, Paré a déjà l'appui du roi. Et certains du collège de chirurgie, finalement, voient tout leur intérêt hein, d'agréger à leur collège quelqu'un qui appartient à la maison médicale du roi. L'institution médicale, encore une fois, est très hiérarchisée. On pourrait dire, au fond, qu'il y a 4 catégories. Les médecins, les chirurgiens de Saint-Côme, les barbiers chirurgiens qui ont quand même une maîtrise, qui ont passé hein, une maîtrise de barbier chirurgien. Et la quatrième catégorie, et qui est évidemment la plus nombreuse, ce sont ces barbiers chirurgiens qui prennent le titre de barbier chirurgien, mais qui en réalité sont sans diplôme. La corporation des barbiers date du XIIIe siècle. dans l'enseigne des barbiers, il y a le bassin, hein, on imagine le bassin, le rasoir. Et très vite, donc, les barbiers ont été amenés, encore une fois, à cause du rasoir, hein, à s'occuper de petites affections cutanées, et puis d'opérer les saignées, les purges. Et ensuite, on va accoler le mot chirurgien, puisqu'ils opèrent la petite chirurgie. Il s'agit d'une corporation. Ce qui différencie les barbiers chirurgiens des chirurgiens, c'est que les chirurgiens ont reçu une formation, on dirait aujourd'hui académique. On les dit aussi chirurgiens de robe longue. Ils parlent latin, donc leur fonction est de s'occuper des opérations plus lourdes, hein, les fractures, les luxations, etc. Mais surtout, ils vont se trouver en rivalité avec la faculté de médecine parce que ce qu'on appelle les chirurgiens de Saint-Côme, hein, ils sont donc sous le patronage de Saint-Côme et Saint-Damien, veulent être considérés aussi comme appartenant au fond au corps, on dirait aujourd'hui, universitaire. Les médecins ne veulent pas que les chirurgiens poussent trop loin leur ambition. Tout le siècle est traversé de conflits entre les différentes institutions médicales.
Il y a un épisode des voyages, le siège de Hesdin, que je trouve tout à fait bouleversant.
Ariane Bell.
Alors, je vais le lire en texte d'époque, mais peut-être que je paraphraserai à certains moments si la langue paraît un peu difficile à comprendre. Alors, d'une manière générale, c'est quand même une prose que je trouve assez facilement lisible, hein, pareil. C'est beaucoup plus facile à lire que du Rabelais. Hein, voilà. Nos soldats firent saillie sur les ennemis, où il en fut beaucoup de tués et blessés de coups d'aquebut et de main, tant d'une part que d'autre. Et nos soldats faisaient souvent des saillies sur les ennemis, auparavant que leurs tranchées fussent faites, là où j'eus beaucoup de besogne taillée, de façon que je n'avais repos ni jour ni nuit à panser les blessés. Et dirais ceci en passant, que nous en avions mis beaucoup en une grosse tour, couchés sur un peu de paille. Et leurs oreillers étaient de pierre, leur couverture était leur manteau, ceux qui en avaient. Lorsque la batterie se faisait, autant de coups que leurs canons tiraient, les malades disaient sentir douleur en leurs plaies, comme si on leur eût donné des coups de bâton. L'un criait la tête, l'autre le bras, et ainsi des autres parties, et à plusieurs leurs plaies ressaignaient, voire en plus grande abondance, qu'à l'heure qu'ils furent blessés, et lors c'était à moi à courir pour les étancher. Mon petit maître, alors là il s'adresse à Gourmelin, qui est son adversaire, il l'interpelle en disant mon petit maître, hein, parce que
c'est un médecin.
Ouais, c'est l'ancien doyen de la faculté de médecine de Paris. « Mon petit maître, si vous eussiez été là, vous eussiez été bien empêché avec vos fers ardents pour la cautérisation. Il vous eût fallu beaucoup de charbon pour les rougir, et quoi qu'on vous eût assommé comme un veau pour cette cruauté. Hein, Gourmelin, si vous aviez utilisé les fers ardents là où j'étais, croyez-moi les soldats, vous aurez mis à mort comme Arcagathos d'une certaine manière. Hein. Or, par cette tempête diabolique de l'écho de cette machine canonique et grande et véhémente agitation de la collision de l'air, retentissant aux plaies de ces blessés, plusieurs mouraient. Et d'autres, parce qu'ils ne pouvaient reposer à cause des clameurs et cris qu'ils faisaient jour et nuit, et aussi faute de bons aliments et autres traitements nécessaires aux blessés. Or, mon petit maître, si vous eussiez été là, vous eussiez bien pu leur ordonner de la geler, restaurant, coulis, précis, panade, orge mondée, amande blanc mangée, pruneaux, raisins de Damas et autres viandes propres aux malades. Enfin, vous auriez eu beau jeu de leur prescrire un régime. Votre ordonnance eût été seulement accomplie en papier, mais à l'effet, ils n'eussent su autre chose à voir que de la chair de vieille vache empreinte, c'est-à-dire de vaches pleines, hein, qui furent prises autour de Hesdin pour notre munition, salée et demi-cuite. En sorte que, qui la voulait manger, il la fallait tirer à force dedans, comme font les oiseaux de proie leur viande. C'est littéralement de la bouffée de la vache enragée, enfin, de la carne très très dure. Hein. Ils sont comme des oiseaux qui essayent de déchirer la viande. Voilà comment les pauvres malades mouraient, par faute d'aliments et autres choses nécessaires.
Ce qu'on reproche à Paris, essentiellement, c'est d'avoir traité des hauts points de philosophie, hein, c'est l'expression qu'on emploie, c'est-à-dire d'avoir passé complètement les bornes qui était concédé à la chirurgie, d'avoir parlé de physiologie, de médecine en général, et d'avoir cette ambition de donner un corps tout entier de chirurgie, qui commence par l'anatomie, qui se poursuit par un cours général de physiologie, qui traite ensuite, c'est vrai, des opérations de chirurgie, mais qui continue en s'occupant de ce qui appartient au médecin, qui finit avec un ouvrage sur la génération humaine et de traiter donc de questions de biologie. Mais je dirais, que resterait-il alors au médecin dans ces conditions ? Et je crois que c'est la raison profonde qui pousse la faculté de médecine à mettre obstacle à la publication du livre. La faculté ne parviendra pas d'ailleurs à le faire parce que Paré, tout simplement, est le premier chirurgien du roi.
On reproche à Paré d'être impudent, inexpérimenté, téméraire, et par ailleurs encore d'avoir fait preuve d'immoralité en publiant en français des livres qui traitent de la génération, et donc de la sexualité, hein, de la manière dont on conçoit les enfants. Publier en français, c'était évidemment divulguer un savoir qui devait être tenu caché de certaines couches de la population, notamment des femmes. Si on publie en français, surtout dans des formats relativement maniables, des livres qui parlent de la conception, voilà, c'est un risque pour la moralité des jeunes filles et des femmes. D'autant plus qu'on parle du plaisir sexuel, hein, dans ces livres, parce qu'il y avait cette croyance que pour bien concevoir un enfant, il fallait la rencontre de deux semences, une semence masculine, une semence féminine, et que l'excitation de la femme, son plaisir, allait accroître ses chances de concevoir. Et Paré va répliquer dans un texte qui s'intitule « Réponse d'Ambroise Paré aux calomnies d'aucun médecin et chirurgien », texte dans lequel il va défendre la décence de son livre, de la génération. C'est pas du tout impudique, dit-il. Alors, il dit, si les filles veulent apprendre des choses sur la séduction et la sexualité, elles n'ont même pas besoin de lire des livres de chirurgie. Hein. Il n'y a qu'à lire des recueils comiques de facéties, de lire le Podge, par exemple. Ça ira très bien. Ou des conteurs français, elles en apprendront autant. Non, il explique que les médecins qui l'attaquent de la faculté, prétend avoir un souci de moralité, alors que c'est un motif en fait économique. Ce qu'ils craignent, c'est que les gens qui liront ces livres en français ne puissent ensuite se soigner par eux-mêmes, ne plus consulter nécessairement les médecins, voilà, et que la langue vulgaire, effectivement, a ce pouvoir de divulgation, et lui le revendique.
Or, disent-ils, que je ne devais écrire en français, et que par ce moyen, la médecine en serait tenue à mépris. Ce qui me semble le contraire, car ce que j'en ai fait est plutôt pour la magnifier et honorer. Et faut entendre que les sciences, tant plus elles sont connues de plusieurs, tant plus elles sont louées, vu que science et vertu n'ont plus grand ennemi qu'ignorance. Davantage, je demanderais volontiers si la philosophie d'Aristote, la médecine du divin Hippocrate et de Galien ont été obscurcies et amoindries pour avoir été traduites de grec en latin ou en langage arabe. Pourquoi semblablement ne me sera-t-il permis d'écrire en ma langue françoise, laquelle est autant noble que nulle autre étrangère ?
L'armoire blindée, où on conserve en fait tous les ouvrages précieux et rares de la bibliothèque, dont le fonds Alfred Jarry et le fonds Ambroise Paré, donc qui est composé en fait de 7 ouvrages imprimés des 16e et 17e siècles. Alors.
Sidonie Vissé.
Voilà. Voilà, je vous ai sorti cette très belle édition. Donc, c'est une édition des œuvres d'Ambroise Paré, qui date de 1579, donc c'est la seconde édition de ses œuvres. Et en fait, elle est remarquable par cette reliure que vous voyez, qui est composée de fermoirs en fer ouvragé et qui est estampée à froid. Voilà.
C'est vrai que c'est toujours très émouvant de se retrouver face à des œuvres aussi extraordinaires.
Xavier Villebrun.
D'abord, ce sont des œuvres écrites. À l'époque, le chirurgien, c'est un praticien. On devrait dire un mécanicien auto, avec le même degré de respect ou de crainte, mais en tout cas, ce n'est pas un homme qui est considéré comme un intellectuel. On l'a vu avec la statue d'Ambroise Paré, il est le premier chirurgien qui non seulement va être reconnu par ses pairs, parce qu'on espère beaucoup de lui pour la reconnaissance de la chirurgie, mais c'est aussi l'un des premiers qui a la prétention à une carrière faite, car il n'écrit pas tout de suite, carrière faite à partir de son expérience, de vouloir créer une œuvre. Une œuvre qui est une œuvre d'abord problématique, puisqu'elle va affronter un certain nombre de préjugés, je pense au traité sur les plaies par arquebute, la médecine dit que c'est un empoisonnement, lui va te prouver qu'il n'y a pas empoisonnement. Donc c'est une œuvre qui est tout de suite dans le champ de la polémique et ses œuvres, par la suite, vont être des œuvres importantes. On le voit toujours pour la reconnaissance du métier, pour l'apprentissage, parce qu'il pense que l'écrit a une vertu pédagogique. Donc une œuvre à la fois politique, nous chirurgiens savons écrire, une œuvre pédagogique, nous pensons pouvoir transmettre un savoir par l'écrit illustré. Ça, chez Ambroise Paré, c'est très important. Et puis, c'est aussi une œuvre personnelle. C'est sa manière à lui d'assurer sa postérité avec son portrait au début de ses œuvres, mais également de prétendre un statut social. C'est celui non seulement de grand homme, mais d'un homme qui est capable de se projeter dans un travail intellectuel en français.
Le français, pour Paré, à partir d'un certain moment, devient la langue du royaume. Et il emploie un argument, enfin, les arguments de Paré sont d'ailleurs les arguments de ceux qu'on a appelés les avocats de la langue française au XVIe siècle. Et là, je citerai un poète, du Bellay, dans Défense et illustration de la langue française. Les anciens ont parlé dans leur langue. Les latins parlaient latin, les grecs grecs, pourquoi est-ce que nous ne parlerions pas dans la nôtre ? Les langues vernaculaires ne sont en rien inférieures aux langues anciennes. Donc, Paré, à partir d'un certain moment, ne voit plus l'impossibilité d'écrire en latin comme un handicap. Il est français, il est le premier chirurgien du royaume, et je dirais, il se doit d'écrire en français.
C'est presque une revendication politique.
Oui, absolument. Son œuvre vise non seulement à illustrer la chirurgie, et là il le dit dans la préface des grandes œuvres, qui est de 75, donc c'est Henri III, hein, en 1575. Son œuvre doit illustrer la chirurgie, certes, mais illustrer le royaume, et donc illustrer le prince qui est à sa tête. Le royaume peut montrer qu'il brille par ses sciences et par sa langue.
Alors on passe, et là on va arriver aux illustrations les plus... voilà. Moi, les illustrations qui me touchent le plus et qui montrent également la modernité d'Ambroise Paré. On est dans le 26e livre, traitant des défauts. Et on voit là deux pages complètes, illustrées, quatre illustrations uniquement sur des prothèses. À gauche, une prothèse de main, très compliquée, avec mécanisme intérieur, avec ses attaches de bras, un bras de fer articulé, et différentes prothèses de jambes, allant de la jambe articulée au fameux ensemble tel qu'on pourrait le retrouver sur la jambe de bois de pirate. Quoi. C'est, Là, on rentre chez Ambroise Paré, qui va également réaliser des prothèses de visage sur deux éléments importants. D'abord, les dégâts de la guerre. On l'a dit, Ambroise Paré va se retrouver confronté à une guerre auquel il ne s'attend pas. Il est habitué aux esbattements de nobles à l'épée. On tranche, on pique. Et il va découvrir des blessures par explosion, par feu, des choses qui vont le choquer énormément. C'est une guerre où on marche sur les corps et les gens à demi-morts. Il va essayer de les soigner, c'est vraiment sa volonté, le soin. Mais le soin, ça va beaucoup plus loin que la bataille, parce que tous ces gens qui rentrent brûlés, mutilés, ils ont perdu l'utilité sociale. Et pour Ambroise Paré, l'homme est un animal social. Et pour faire socialité et sociabilité, il doit pouvoir vivre. Et pour ça, ben, s'il est privé d'un bras, on doit lui en mettre un autre, un bras de fer. S'il est privé d'une jambe, on doit lui mettre une autre jambe. Et si il est privé d'une partie du visage, Ambroise Paré, c'est le premier à traiter la gueule cassée, hein, on dirait en 14-18, il faut reconstituer tout ou partie du visage. Voilà, oui, alors, les figures de serpent et pourriture, de la morsure, des piqûres. Alors, les morsures, les chiens enragés, les venins. Alors, je vous l'ai dit, c'est une œuvre universelle, c'est l'œuvre sur l'homme, mais dans un contexte qui reste encore très marqué par le Moyen-Âge. On a une fascination pour toutes ces choses qui est d'un autre temps, mais il va leur donner un caractère scientifique. Il teste tout. Voilà, il teste les poisons et antipoisons. Il y a toujours, tout doit être testé. Les fourneaux, les bains-maries. Vous voyez, on va très loin, c'est très très pratique. Il y a l'univers de la chirurgie, mais il y a l'univers du laboratoire hein, tout autour. On élargit la focale et on vous organise un laboratoire. Alors si vous voulez de l'eau bouillante, il faut fabriquer. Moi, je vous donne un dessin de bain-marie. Hein. Vous voyez, c'est le labo de Monsieur Paré. Les dentifrices. Vous voulez une méthode de dentifrice par Ambroise Paré, vous en avez une. Voilà, on a quelqu'un de la base. On dirait aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas coupé du monde réel. Voilà, c'est comme ça que je définirais au final Ambroise Paré. Hop, on passe du dentifrice au toucan.
Mais ce qui est certain, c'est qu'il aura été le premier à rassembler, de cette, comme il l'a fait, l'ensemble des connaissances sur la chirurgie de son temps, en corrigeant un certain nombre d'erreurs qu'il y avait dans des textes venus des autorités antiques. Et dans ce geste de rassembler, de rendre disponible, voilà, en français, pour tous, pour la chose publique, ce qu'il appelle vraiment la République au sens étymologique, hein, de rassembler, de rendre disponible pour tous l'ensemble de ce savoir, hein, de le mettre à disposition d'un public extrêmement vaste, indéterminé, là, il y a quelque chose d'un geste qui est absolument fondateur. Oui.
Ces 10 dernières années de sa vie, 75-85, vont être consacrées à sa grande œuvre. Paré est devenu, oui, un naturaliste. Et c'est peut-être ce qu'on n'avait pas trop compris au 19e siècle. Où on se plaçait dans une perspective, je dirais, positiviste, hein, une vision du progrès des sciences. Ce qui fait qu'on n'avait pas trop bien compris comment un chirurgien comme Paré, qui accordait une telle place à la raison, à l'expérience, avait pu écrire ce livre des monstres et des prodiges. C'est-à-dire être assez crédule, hein, pour insérer dans son œuvre toutes ces fables. Je crois que c'est que on n'avait peut-être pas tout à fait bien compris ce que voulait montrer Paré. Aussi, l'extraordinaire richesse de la nature, de la création, et la place de l'homme à l'intérieur de cet univers. On cite toujours « Je le pensais, Dieu le guérit ». Ça n'apparaît que dans le livre à l'Apologie à la fin. Mais les deux termes pour lui qui sont importants, c'est Dieu et nature. Souvent, ils sont accolés. Dieu et nature font parfois des choses impensables aux chirurgiens, mais aussi cette vision d'une nature qui se plaît à jouer en créant des choses surprenantes, et par exemple des monstres.
Reçois donc, ami lecteur, ce que de si bon cœur et avec telle libéralité je te départs. Et pour récompense, aie mémoire que ma vie n'a été oisive pour la République, cherchant toujours l'avancement des jeunes apprentis en la chirurgie auxquels mes écrits s'adressent. Et malgré toutes les peines que j'ai prises par-ci devant, j'ai occasion de louer Dieu de ce qui lui a plu m'appeler à l'opération médicinale, que communément on nomme chirurgie, qu'on ne saurait acheter par or ni par argent, mais par la seule vertu et longue expérience. Et toutefois est stable en tout pays, à cause que les lois de la sacrée médecine ne sont sujettes à celles des rois et autres seigneurs, ni à prescription de temps, comme prenant son origine de Dieu, lequel je supplie qu'il lui plaise arroser cette mienne entreprise, afin qu'il en soit glorifié éternellement. Ainsi soit-il.
C'était l'œuvre chirurgicale d'Ambroise Paré, avec Evelyne Berriot-Salvador, professeur émérite de littérature française du XVIe siècle à Montpellier III, Xavier Villebrun, chargé des grands projets de la ville de Laval, Ariane Bell, professeur de littérature comparée à Lyon III, et Sidonie Vissé, chargé du fonds ancien de la bibliothèque de Laval. Merci à Antoinette Le Faller, lecture des œuvres d'Ambroise Paré, Laurent Lederer, prise de son, Alexandre Abergel, documentaliste, Anne-Lise Signoret, attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales, coordination, Perrine Kervan. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Yvon Croisier.